marche de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflys OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous dévoile le dessous des cartes. Ça ferait un bon nom d'émission, mais on est bien dans 40 nuances de Next, le podcast donc qui vous fait vivre les coulisses des plus belles aventures de la tech française. Aujourd'hui on plonge dans un univers que personnellement je connais peu, voire pas. Pas sûr d'ailleurs que vous qui venez nous écoutiez connaissiez tous l'entreprise de notre invité, Descartes Underwriting, c'est le nom de la boîte et pourtant... L'entreprise est entrée il y a peu au Next 40 après une levée de fonds de 120 millions de dollars il y a quelques semaines. On pourrait peut-être résumer son activité « je prévois donc je suis, j'assure donc je suis ». En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on parle d'eux, c'est pas toujours des bonnes nouvelles, mais on va avoir de plus en plus besoin d'entreprises comme la vôtre. Tanguy Touffu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Comment vas-tu?
Très bien.
C'était long comme intro.
C'était parfait, en plus avec beaucoup de jeux de mots, j'ai beaucoup aimé.
Au moins tu les as compris, mais alors du coup pour que nos auditeurs puissent comprendre de quoi on parle, Descartes Underwriting, qu'est-ce que c'est?
Pitch au mon pitch, pitch au mon pitch.
C'est très jovial pour parler de l'activité.
Exactement, ça détend. Descartes, c'est une société qui est assez jeune, hein, qui a été créée il y a 3 ans, qui travaille en fait sur les grands risques, donc les risques des grandes entreprises, avec un focus sur les risques climatiques. Risques climatiques, risques naturels. Donc on va couvrir
et
en fait...
Et il y en a.
Et il y en a beaucoup, et ils sont en croissance exponentielle pour beaucoup d'entre eux, et avec une vision qui est mondiale. Donc on a aussi bien des bureaux donc à Denver, Houston, New York, des bureaux à Sydney ou à Singapour ou à Londres, donc on a une vision assez mondiale de ces risques-là, qui effectivement sont en forte croissance.
En 3 ans au Next 40, en 3 ans dans plusieurs pays, comment ça se fait?
Alors on est sur un marché, nos clients c'est des multinationales qui s'attendent à ce qu'on soit présent dans le monde entier pour les accompagner, et sur les risques climatiques, en fait la France est relativement protégée. On en a évidemment, on peut avoir dans quelques mois des risques de gel. On en a eu en 2021 avec des viticulteurs qui ont été impactés. On a eu beaucoup de...
Quelques inondations.
Exemples d'inondations. Ouais. Alors ça, c'est plutôt pour l'Allemagne et la Belgique en 2021, où là, il y a eu plus de 10 milliards en fait, de sinistres hein, dans les deux pays. On a évidemment quelques petits orages cévenols et ce type d'événements. Mais globalement, par rapport à des pays comme... la Chine, comme les États-Unis, comme l'Australie, on est
relativement
protégé, qui est limité.
Du coup, c'est aujourd'hui, et a priori ça devrait encore réduire, 5% de l'activité en France.
Oui, ça sera même moins que 5%, ouais. Et en fait aujourd'hui on a à peu près 50% Europe au sens large, et 50% reste du monde. Et d'ici quelques temps, je pense qu'on sera un tiers Europe, et puis le reste Amérique du Nord et Asie.
Alors merci Tanguy pour notre balance commerciale déjà. Pour bien comprendre comment ça marche, parce que typiquement, on pourrait imaginer que arriver en 3 ans c'est qu'il y a peut-être beaucoup de place à prendre.
On est effectivement sur un domaine, l'assurance et la tech climate, qui est encore peu traité. Dans l'assurance, il y a beaucoup d'exemples, dans l'assurance automobile ou l'assurance habitation, donc pour les particuliers. En revanche, les startups qui sont prêtes à attaquer le segment des grandes entreprises, il n'y en a pas. Donc on est clairement les seuls, en tout cas en Europe, sur ce positionnement-là. Et on est parmi les quelques acteurs qui sont en train de renverser la table sur le segment des grandes entreprises.
Parce que les grands assureurs mondiaux qu'on connaît tous n'y vont pas, ils vont mal.
Ils y vont, mais alors, parfois avec une compréhension des risques qui est encore assez limitée. Donc c'est vraiment une vision qui est finalement celle du rétroviseur. On va regarder dans le passé la sinistralité et pas forcément une vision physique des éléments qui sont en train de se produire pour comprendre plus finement la fréquence des feux de forêt, la fréquence des cyclones, la fréquence des gels.
En fait, c'est le modèle et la techno qui fait que vous en êtes là aujourd'hui.
On est clairement sur un domaine où il y a beaucoup de données, beaucoup d'algorithmes qu'on peut utiliser et un secteur qui est assez conservateur, où il y a eu peu de ruptures en fait sur les grands risques. Il y a beaucoup de contrats qui ressemblent à des contrats il y a 50 ou 70 ans.
On a pas mal de questions de nos partenaires sur à la fois l'innovation, la vôtre, et puis l'innovation au sens large. Je vais te les passer dans quelques instants, mais typiquement quand tu me parles de l'importance des algos notamment, c'est que contrairement à d'autres acteurs de l'assurance, quand il y a un sinistre, vous n'envoyez pas quelqu'un qui vient constater à la main et dans un temps parfois presque infini, en tout cas pour celui qui a vu le sinistre. Ça peut être long. Là, en l'occurrence, tout se fait en algo ou presque.
Exactement. Donc, que ce soit par exemple des cyclones, on va pouvoir suivre l'œil du cyclone en temps réel. Des sujets de sécheresse, on va capturer les radiations émises par les plantes lors de la photosynthèse et comprendre leur développement. Donc, c'est vraiment un moyen de savoir si la plante est en train de grossir ou pas. Ou des sujets de feux de forêt où on peut effectivement tracer des zones extrêmement larges en sachant, en déterminant si elles sont brûlées ou pas brûlées, ou partiellement brûlées ou totalement brûlées. Donc on a effectivement...
Et ça, tu le vois avec tes satellites. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas les tiens.
Oui, on passe effectivement par des satellites qui peuvent être des satellites européens. Donc on est incubé par l'Agence spatiale européenne, des satellites japonais comme celui JAXA, des satellites américains sous la NASA. Il y a aussi des satellites privés. Il y a pas mal d'entreprises qui aujourd'hui lancent leurs satellites.
Et du coup, vous voulez louer l'accès au...
On va effectivement... Alors, il y a des données qui vont être gratuites.
Je peux comprendre le modèle, ouais.
Ouais, des données qui sont payantes. Mais il y a beaucoup de données gratuites. Quand c'est la NASA ou l'Agence spatiale européenne, c'est finalement l'agent des contribuables européens ou américains qui finance ces satellites.
Donc moi aussi, si je veux regarder les images satellites...
Alors, si t'es fort en maths, en algorithme, tu pourras regarder les images, les exploiter. Mais ça demande quand même beaucoup de bouteilles. C'est pas quelque chose que tout le monde peut faire.
L'autre jour, je découvrais à l'occasion de la guerre en Ukraine, pas mal de médias qui disaient qu'ils pouvaient suivre en temps réel le mouvement des troupes russes. Faut juste être un peu calé, quoi.
Faut être juste un peu calé, mais effectivement, l'information va être gratuite. Après, il y a beaucoup de données qui sont retravaillées avec d'autres algorithmes, et il y a beaucoup d'acteurs qui envoient leurs propres satellites. Et puis, il y a beaucoup de données au sol aussi. On utilise beaucoup de données radar, par exemple, sur les sujets grêles. On peut capturer l'énergie cinétique d'un orage de grêle. On peut avoir des sujets aussi des capteurs physiques qui vont prendre l'impact d'un grêlon sur le sol. On va avoir des capteurs qui vont calculer l'énergie aussi qui est déployée lors d'événements sismiques. Donc il y a la hauteur des vagues aussi avec différentes bouées. Donc c'est vraiment très très riche.
Écoute, je te propose, parce que j'ai encore 10 000 questions là-dessus, mais une première qui devrait peut-être nous aider, ou en tout cas comme ça il n'y aura pas de redite, avec la question de Christophe Négrier, notre partenaire de chez Oracle. On l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour Tanguy. Toutes mes félicitations pour votre récente levée de fonds. Alors, vous proposez aujourd'hui une offre d'assurance nouvelle génération dite paramétrique. Je voulais savoir sur quelle technologie vous vous appuyez pour détecter en temps réel les sinistres.
Il est fan de techno.
Ça
et on a envie de comprendre.
Après, je peux en parler pendant des heures, donc je vais essayer d'être très simple dans ma réponse. Mais donc, ça va dépendre du type de risque. Et souvent, on va combiner en fait des technologies différentes. Ça peut être aussi bien du satellite combiné à du radar, que éventuellement des capteurs, des sonars qui vont regarder la hauteur des rivières. On va par exemple assurer des acteurs sur le transport fluvial. Ça peut être effectivement des capteurs sur l'accélération au sol lors des tremblements de terre. Donc on va combiner différentes technologies, mais si on doit être un peu visuel dans le podcast, je parlerai vraiment des images satellitaires où il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà comprendre en temps réel ou en quasi-temps réel grâce aux satellites, avec une résolution qui est maintenant de moins de 10 mètres sur beaucoup de sujets.
Alors, pour rester sur la question des objets connectés et des images satellitaires, on a aussi une question, mais ça intéresse tout le monde. Là, en l'occurrence, c'est Antafin de Madinès, on l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour. Votre solution nécessite, entre autres, l'usage d'objets connectés et d'images satellitaires. Vous avez réussi à nouer des partenariats avec la NASA et les agences spatiales européennes et japonaises. Comment se sont passés les échanges et les négociations avec ces structures ?
Alors, ça dépend évidemment des partenaires. Encore une fois, il y a des partenaires qui
sont... C'est simple quand même d'accès ?
C'est pas simple d'accès. Après, Par exemple, l'Agence spatiale européenne essaye aujourd'hui d'incuber beaucoup de startups. Il y a vraiment la space tech qui est en train de décoller, donc il faut créer des acteurs nouveaux dans le milieu. Et il y a
on
vraiment.
On salue nos amis de Kinéis d'ailleurs qui étaient passés à ce micro, Alexandre Tisserand.
Ouais, exactement. Donc ça commence à se restructurer. Et je pense que il y a une dimension aussi évidemment d'indépendance militaire derrière la question satellitaire. Donc il y a vraiment un soutien qui est assez fort des partenaires européens. Après, il y a aussi des sociétés, par exemple, on va prendre iSci, avec qui on a un partenariat, qui est une start-up finlandaise, qui a levé, je crois, 150 millions de dollars il y a quelques semaines, qui est pour sa série D, je crois, qui est un acteur européen qui envoie ses propres satellites et qui ont une technologie, par exemple, assez puissante sur des sujets de compréhension des inondations, qui est un des risques qui explose le plus depuis 50 ans.
Pour bien comprendre, parce que là, tu nous as parlé des capteurs, des radars, des sonars, des images satellites, qu'il faut aller piocher un peu partout. À chaque fois que vous dites, on va créer un produit, parce que du coup, on peut le penser comme ça, hein, typiquement, couvrir une inondation, c'est un produit d'assurance. Comment vous savez où aller chercher l'info? Est-ce qu'il existe déjà? Est-ce que parfois il y a des trous dans la raquette? Du coup, on pondère un peu le prix de l'assurance ou est-ce qu'on crée des nouveaux partenariats? Enfin, voilà, comment tout ça se conçoit?
Alors, clairement, il y a des images satellites.
Pardon, je poursuis ma question comme ça, tu pourras répondre dans la globalité. Au moment où vous lancez il y a 3 ans, il y avait déjà suffisamment de choses pour créer le produit?
Il y avait la matière première, c'est-à-dire la donnée. Qui ensuite peut être exploité par des algorithmes. En revanche, les produits, il faut les bâtir. Donc, par exemple, si on regarde les feux de forêt, donc ça, c'est pareil, un des risques qui a le plus explosé depuis 50 ans, avec des sinistres à plus de 20 milliards aux États-Unis il y a 2 ans. On va pas envoyer des gens sur place pour déterminer évidemment si les arbres sont brûlés ou pas, parce qu'on est sur des exploitations qui font souvent plusieurs millions d'hectares, voire plusieurs dizaines de millions d'hectares. Et dans ce cas-là, le satellite va nous fournir des informations de type images qui permettent de savoir, en retraitant avec des réseaux neuronaux et de l'apprentissage automatique, donc du computer visioning, on va réussir à savoir si c'est brûlé ou pas brûlé. Et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on va utiliser pour couvrir des clients en Australie, des clients au Chili, des clients aux États-Unis. Et la technologie est identique, finalement, entre l'Australie, le Chili ou les États-Unis,
on va utiliser c'est le même risque, même satellite. Du coup, c'est a priori
les mêmes algorithmes. Okay. Il y a parfois des données radar, par exemple, entre les données radar américaines ou australiennes, il y a une calibration à faire, mais globalement, on va avoir des modèles qui sont globaux.
Parce que l'autre point fort, parce que je te demandais un peu quel était l'intérêt pour un gouvernement ou une grande entreprise de passer, alors je te l'ai demandé avant pour être sûr que tu avais une réponse, mais ça tombe bien, puis a priori vous avez quand même des réponses à ce genre de questions, mais typiquement, je te demandais quel est leur intérêt à passer par vous, sachant que de toute manière le sinistre est là, et on prévoit pas non plus a priori qu'il n'y aura pas de sinistre, on ne va pas décaler ses champs parce qu'on sait que dans 10 ans ou dans 15 ans, potentiellement, il y aura tel ou tel sinistre. Et le gros sujet, c'est la rapidité de recouvrement.
Alors, si je prends un exemple, parce qu'on est à la fois sur les grandes entreprises et les gouvernements, je prends un exemple qui est marquant, qui est celui de Madagascar, où il y a eu, dans les 3 dernières semaines, donc 2 événements, 2 cyclones, un appelé Batsirai et l'autre Ennati, qui ont évidemment... conduit à des pertes colossales pour un pays qui est extrêmement pauvre, extrêmement vulnérable, et qui heureusement a été assuré par l'African Risk Capacity, qui est donc en fait un assureur panafricain qui à l'origine a été créé par les Nations Unies dans une logique d'augmenter la résilience des pays africains face au changement climatique. Et donc on a pu payer finalement très rapidement un sinistre. Plus on paye rapidement, et plus la capacité du pays à rebondir est bonne. Ouais. Si on prend l'agriculture, notamment en Afrique, si on paye finalement en quelques semaines, potentiellement, les agriculteurs, après par exemple un échec de semis, donc on n'arrive pas, il n'y a pas de saison des pluies prévu, ça prend pas, ils ont potentiellement l'argent pour pouvoir replanter quelque chose d'autre et sauver finalement la récolte. Si on arrive 18 mois plus tard, en général, ils ont vendu leur matériel productif.
Ils ont fait bien manger.
Voilà, exactement. Et donc, au final, on rentre dans un cercle de pauvreté qui est extrêmement complexe à casser. Donc, il y a vraiment, côté Banque mondiale, côté IFC, une volonté, en fait, pour aller très, très vite.
Et du coup, vous, vous pouvez aller vite, justement parce que vous avez les données tout de suite et que vous êtes capable de dire, effectivement, ça s'est brûlé, ça, ça n'a pas pu récolter, ici, c'est inondé, mais pas là.
Exactement.
Donc, on vous doit tant.
C'est exactement ça.
Et on vous le donne tout de suite.
On travaille bien dans les contrats en amont pour savoir comment l'argent sera utilisé aussi, notamment dans le cas des gouvernements en Afrique. C'est important de montrer à quoi va servir l'argent. Ça, c'est primordial. Si je donne un exemple dans les grands risques ou les grandes entreprises, aux États-Unis, en moyenne, il se passe 550 jours entre la déclaration de sinistre et le paiement du sinistre. Donc clairement, il y a des entreprises, par exemple, en 2020, qui ont souffert à cause de la Covid-19, d'une baisse de leurs revenus. Potentiellement, certains ont fait faillite sans avoir eu le temps de récupérer finalement leur dû.
Là, parce que vous avez aussi couvert certaines boîtes par rapport à la pandémie.
Alors, on a couvert, par exemple, plutôt contre des cyclones, des grands acteurs en fait du tourisme, notamment en fait dans beaucoup d'îles paradisiaques dans les Caraïbes, par exemple. L'envers du décor, c'est qu'il y a des cyclones qui sont très fréquents à certaines périodes. En général, l'hémisphère nord atlantique, c'est entre juin et novembre. Et potentiellement, un hôtel peut être rasé. Et si en plus, ils n'ont pas évidemment les ressources financières pour pouvoir reconstruire, ou en tout cas...
Pour la saison d'après.
Pour la saison d'après, c'est un énorme sujet. Donc payer rapidement dans l'assurance, ça paraît simple. Mais je pense que pas mal d'auditeurs là qui ont dû avoir des dégâts des eaux et qui ont eu un paiement au bout de 6 mois, dans les grandes entreprises, c'est ça, mais en plus lourd. Et ça passe souvent par des procès. C'est souvent un monde où, en fait... Ce qui rajoute encore un peu de temps, ce qui, évidemment, va rajouter des coûts frictionnels. Et puis, c'est pas une logique saine. C'est-à-dire que si les clients, en fait, quand ça se passe mal, on leur envoie des avocats, la raison d'être de l'assureur est quand même remise en question.
Je discutais avec pas mal d'assureurs, mais alors pour le coup avant la pandémie, mais quand même par rapport à tous ces sujets de changement climatique, d'inondation à répétition... Tu rajoutes là-dessus les attentats, tu rajoutes potentiellement les risques de guerre. Il disait, on ne sait pas comment on va s'y retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ils sont frileux, ils ne sont juste pas bien équipés.
J'ai envie de dire les deux. C'est-à-dire que le mauvais équipement conduit à une frilosité. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on a une accélération, donc ces événements climatiques extrêmes. Ça, c'est en plus, il y a eu évidemment là une pandémie qui a coûté au marché de l'assurance plus de 100 milliards de dollars. Donc c'est un événement quand même massif pour beaucoup d'assureurs dans le monde. Donc clairement, il y a eu des bilans qui ont été rognés, qui ont été réduits. Donc il y a eu une pression forte dans le monde de l'assurance. Maintenant, quand on regarde la croissance des sinistres non assurés par rapport aux sinistres assurés. Les premiers croissent plus vite. Donc en fait, le secteur de l'assurance continue à se développer, continue à croître, mais il ne rattrape pas finalement la sinistralité globale liée au changement climatique.
C'est-à-dire qu'il y a plus en plus de sujets, de sinistres qui ne sont pas assurés aujourd'hui.
Oui, donc même si l'assureur fait bien son travail et augmente en fait sa capacité à fournir de l'assurance, au global, on n'arrive pas à rattraper l'accélération de la fréquence des anomalies. Donc en fait, on est juste en train, même si on fait des croissances à plus de 3%, 4% dans le monde, clairement, on est encore en retard par rapport aux sinistres qui, eux, sont des croissances beaucoup plus fortes. Donc, il y a vraiment un travail très fort pour rattraper juste et rester au même niveau de pénétration.
Il faut être en mode start-up.
Il faut être en mode start-up et puis changer un peu les règles du jeu.
On parlait des grands acteurs du secteur. On entend souvent, alors c'est un peu facile des fois de taper sur son assureur, mais les fameux astérisques qu'on retrouve dans les contrats et où finalement il y a toujours une bonne raison de ne pas être assuré parce qu'on n'avait pas envie parfois de se plonger aussi réellement dans les contrats. Est-ce que c'est plus facile quand on a quelque chose de très modélisé comme vous, de savoir ce qui est couvert, ce qui ne le sera pas s'il y a discussion, au moins on a les données et on peut regarder la même carte.
Exactement, en fait, la transparence, c'est un sujet qui est énorme en fait dans le monde de l'assurance. Il y a eu évidemment des critiques assez fortes qui ont été émises pendant la Covid-19 sur le fait qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui étaient assurés contre des épidémies et pas des pandémies. Bon, la Covid-19, tout le monde est conscient maintenant que c'est bien une pandémie, mais au moment de la souscription des contrats, se dire que oui, finalement, on n'est pas protégé.
La différence entre pandémie et épidémie, on ne la faisait pas encore.
Elle n'est quand même pas évidente pour le commun des mortels. Je pense que j'aurais été le premier à faire une bourde à ce niveau-là. Donc, c'est important que les contrats expliquent ce qui est assuré et ce qui ne l'est pas. Et évidemment, on a une approche où on va dire, nous, on va couvrir par exemple une inondation, on va couvrir un cyclone, on va couvrir un tremblement de terre, et on explique très clairement dans le contrat comment ça fonctionne, en fonction de différents scénarios d'intensité. Et donc, il n'y a pas de surprise, en fait, sur combien va être perçu par le client. On n'est pas dans une logique où on va dire on assure tout sauf, et il y a 50 exclusions qui, en fait,
qui couvrent tout.
Qui font qu'en fait, rien n'est assuré. Ouais. C'est intéressant de le voir, par exemple, sur l'esque cyber aujourd'hui, il y a des contrats où, en fait, quasiment tout exclut. Et il reste quasiment plus rien. Il faut vraiment un scénario très particulier pour réussir à récupérer de l'argent de son assureur.
On vous assure, mais pas contre les pirates.
Ouais, pas contre les pirates, pas contre les attaques. Ben, le malware, évidemment, c'est va être exclu. Donc oui, c'est clairement ce genre d'approche.
Un mot sur la marque Descartes Underwriting. Alors déjà, en interne, nous, ça a posé pas mal de questions. Pourquoi ce nom? Et il y en a une autre. Et puis, je poserai évidemment en complément. Mais c'est un de tes amis, Philippe Mangematin, qui est d'ailleurs entrepreneur aussi dans l'assurance et je crois aussi dans l'assurance cyber.
Exactement.
Et c'était pas lui qui couvrait pas contre tout.
Ah non, il vient de lancer, donc c'est une autre approche.
Tu n'aurais pas fait ça à ton ami. Eh ben, on l'écoute. Une question sur la marque.
Vous avez un message.
Salut Tanguy, Philippe Mangematin. Alors j'ai deux petites questions pour toi. La première, c'est comment tu prononces Descartes en anglais? Et la deuxième, un peu dans la lignée, toi qui es une entreprise qui est très internationale avec des bureaux partout dans le monde, quelles sont les zones que tu sens les plus dynamiques économiquement en ce moment, en général et dans la science en particulier? Un grand merci.
Alors la prononciation est assez simple, c'est Descartes. Pour les Américains, c'est assez simple. On a Descartes pour les Espagnols. Donc évidemment différentes prononciations, mais ça reste un nom qui porte une dimension scientifique extrêmement forte et qui est très connu de par le monde. Sur la deuxième question, sur
tout le monde connaît Descartes.
Beaucoup de gens en fait connaissent Descartes et évidemment c'est quand même le père de l'approche scientifique. C'est celui qui évidemment par le doute remet en question évidemment. Pour revenir au fondement même de la raison.
C'est l'approche philosophique de la science.
Alors, c'est l'approche, c'est vraiment une démarche scientifique. Et c'est à la fois un philosophe et un mathématicien. Et notamment, dans le monde spatial, c'est quelqu'un qui, avec ses découvertes ses découvertes géométriques, a permis des avancées extrêmement fortes. Et qui est aussi à l'origine de conventions comme X, Y, Z, ABC. Où l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées, c'est lui qui a formalisé ça.
D'accord.
Donc c'est quelqu'un qui est très connu pour ses écrits philosophiques, mais qui dans la pensée mathématique et la pensée scientifique a été quelqu'un d'essentiel. Et sur la deuxième question, là, c'est évidemment sur la dynamique et sans surprise, l'Asie est une zone à forte croissance. Je dirais même la zone APAC au sens large. Donc on rajoute autant l'Océanie avec l'Australie. Et c'est là, évidemment, on est en train aussi de beaucoup investir parce qu'il y a à la fois une demande qui est forte, que c'est des pays qui sont assez fragiles par rapport aux catastrophes naturelles, et en même temps, c'est des pays qui ont des croissances aussi assez fortes. Donc les deux combinés, ça donne évidemment une demande forte.
Là, vous ouvrez bientôt à Madrid?
On ouvrira bientôt à Madrid, effectivement,
Hong
dans les
Kong
prochaines
aussi,
semaines.
Je crois.
Hong Kong, effectivement,
je peux
en Asie. Ouais, tout à
si
fait.
On coupe, hein.
Non, Hong Kong, c'est bon, c'est incorporé. J'ai signé le contrat, ça sera incorporé la semaine prochaine. Et Madrid, c'est en cours, évidemment, ça sera une succursale, donc c'est plus facile qu'une filiale, mais il y a quand même encore quelques délais. Mais on est déjà présent, effectivement, dans trois villes aux États-Unis, Denver, Houston et New York. Et puis en Asie, notamment à Singapour, qui est une bonne base Asie du Sud-Est. Et il y a en Australie, qui est un des pays qui, malheureusement, souffre le plus du changement climatique.
Sur l'international, c'est toujours un questionnement d'aller vite, de pas se planter, de méthode pour aller à l'international, du bon pays, des bonnes équipes. C'est quoi le modèle type pour une boîte comme la vôtre?
Alors effectivement, pour nous, comme nos clients sont demandeurs d'avoir une couverture globale, c'est important d'être partout dans le monde. Et aussi, on est sur un...
Ça change quoi de tout faire de France ou d'être sur place?
Ah bah forcément, on est quand même sur un marché qui est très réglementé, c'est l'assurance. Hein, donc évidemment, il faut des licences locales pour pouvoir opérer. Donc ça, c'est... On peut pas couvrir le monde de Paris, c'est pas possible d'un point de vue réglementaire. Et ensuite, on a aussi une dimension assureur où on a besoin d'être diversifié. Donc on pourrait être par exemple les meilleurs du monde sur la modélisation d'inondations allemandes. En 2021, on aurait perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Donc c'est important d'être exposé à de nombreux pays différents. Donc on est dans plus de 30 pays aujourd'hui en termes de couverture, sur des risques différents, qui sont parfois décorrélés ou anticorrélés. Une vague de froid, par exemple, peut arriver en même temps qu'une vague de chaleur. Et on peut couvrir à la fois une vague de chaleur et une vague de froid. Donc là, on est tranquille, on n'aura pas les deux dans la même journée. À quelques semaines d'intervalle, c'est possible, mais dans la même journée, non. Et puis, évidemment, avec des pas de temps différentes. Mais déjà, entre hémisphère nord et hémisphère sud, il y a une décorrélation.
Justement, quels sont les pays les plus à risque? Tu as parlé tout à l'heure des États-Unis,
Australie. Clairement, les États-Unis, c'est le gros marché mondial au niveau des entreprises. Il y a évidemment des feux de forêt en Australie, en Californie ou en Oregon, qui sont massifs. Il y a évidemment des tornades. Il y a des inondations au niveau Mississippi qui sont impressionnantes. Il y a de la grêle, des grêlons qu'on n'observera jamais en France, qui sont plus gros qu'une balle de golf. Enfin, ça peut être quasiment une balle de baseball. Donc, il y a clairement beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis qu'on voit pas en Europe. Mais l'Australie est
pour
aussi un pays. Pour l'instant,
ou clairement. Jamais.
Non, il y a clairement une accélération en Europe de certains types de risques, inondations clairement. Sur les tempêtes Europe, on en a quand même eu deux sur les 4 dernières semaines. Plutôt au Royaume-Uni, on a senti un peu de vent à Paris, mais ça a été assez léger. En revanche, oui, le risque tempête est amplifié dans certaines zones géographiques. Et puis tout ce qui va être vague de chaleur, ça c'est une évidence, mais également vague de froid. Notamment sur la viticulture en France, un des gros sujets, c'est le fait que les plantes sont à un niveau de maturité qui est plus avancé parce qu'il fait chaud, par exemple, en janvier-février. Mais si jamais il y a une vague de froid, il y en a toujours fin avril ou début mai, potentiellement, c'est la casse.
On a évoqué la levée de fonds de 120 millions d'euros tout à l'heure, je crois, en intro.
C'est dollars, oui.
De dollars, pardon. C'était cadeau, la différence.
On rajoute.
Facile à lever si vite, si rapidement, avec trois gros acteurs, pas qu'en France d'ailleurs.
On l'a fait en 6 semaines, montre en main. Donc c'est effectivement assez rapide.
C'était la première.
C'était notre série B. Donc on a fait effectivement un seed en janvier 2019 au démarrage de la boîte et on a réussi à convaincre un investisseur en quelques semaines, c'est à peu près 2 semaines.
C'est qui?
Blackfin, qui est un acteur spécialisé plutôt sur la fintech en Europe. On a fait une série A dès le déconfinement, le premier déconfinement, dans une logique où, évidemment, on était, comme beaucoup d'entreprises, inquiets par rapport à ce qui se passait dans le monde avec la Covid-19, notamment avec 2008 en tête, et puis des chiffres de croissance du PNB dans la plupart des pays développés qui étaient autour de moins 10%.
Ouais.
Donc on avait dans cette optique-là, on n'avait pas besoin de lever, mais on s'est dit c'est quand même pas mal pour traverser un désert d'avoir
une
petite gourde.
Voilà.
Pour la soif, et puis finalement pour pas mal d'entreprises, il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté dans l'économie, et ça a été aussi un accélérateur sur tout ce qui est digitalisation. La Covid-19 a évidemment été un drame pour beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises, mais ça a été un facteur d'accélération sur le télétravail, sur les données, etc. Ça a été finalement un gain d'efficience vraiment incroyable.
Donc là, vous êtes allé chercher 120 millions de dollars en 6 semaines.
Je pense que
petite anecdote ou
Je pense que la chance qu'on a, c'est qu'on travaille sur un des défis de l'humanité, qui est le changement climatique, où clairement il y a une volonté de pas mal de fonds de trouver une raison d'être et clairement travailler à innover face au changement climatique, la raison d'être est extrêmement puissante. Ensuite, l'assurance, c'est un secteur qui a été assez peu chahuté par les nouveaux entrants. Il y a eu quelques tentatives, par exemple de Google, qui a lancé des agrégateurs au Royaume-Uni il y a maintenant 7-8 ans, avec un échec à la fin. Nous, on est sur un segment qui est encore plus...
Tu sais l'expliquer, ça?
Ma conviction, après c'est peut-être une forme d'arrogance, mais je pense que il faut venir du monde de l'assurance pour savoir quelles sont les règles qu'il faut oublier et celles qu'il faut conserver. C'est un secteur qui est très réglementé, notamment nous on travaille dans beaucoup de pays différents, où il y a des contraintes qui sont locales. Aux États-Unis, c'est par État. Donc on a 600 licences aux États-Unis pour opérer. Donc une start-up qui dit qu'il va falloir 600 licences pour opérer, en général, ils s'en vont en disant qu'ils font autre chose. Donc il faut avoir à la fois des gens qui viennent de la tech et des gens qui viennent de l'assurance pour créer la bonne mayonnaise pour faire les bons choix. On peut pas tout remettre en question dans l'assurance, c'est pas possible. En même temps, il y a des choses qui sont inacceptables et qu'on doit changer.
T'as levé avec, on peut les citer, hein, ça fait Island Europe,
exactement.
Euraseo
et on a
troisième...
deux fonds espagnols. Donc on a effectivement Seaya et Mundi qui sont plus petits, mais les gros effectivement c'est les gros nouveaux, c'est Highland et Euraseo, et puis on a nos existants qui ont tous remis Oppo, Blackfin, donc Serena et Cathay Innovation.
fait toujours plaisir d'être cité quand.
Oui, et puis c'est important, parce que c'est quand même des gens qui nous soutiennent, qui voilà, qui prennent aussi des risques avec nous, et c'est important évidemment que les investisseurs soient contents dans la vision et dans les objectifs de la boîte.
T'as un investisseur préféré ?
Ah, je peux pas le dire. Je les aime tous.
Un mot, si tu veux bien, on va parler de l'après. L'après, très récent, c'est celui-ci.
Française, français.
Alors, Tanguy, si tu devais demain, tu vois, j'ai le pouvoir ici autour de ce plateau de te donner finalement le rôle que je veux. Demain, tu prends la tête de l'État. Si tu dois changer quelque chose, ta grande réforme, ton grand projet pour la France, l'Europe, le monde, tu voudrais bouger quoi ?
Alors, en fait, je présenterai un peu différemment. Qu'est-ce que j'ai pas envie de voir changer dans les prochains mois ?
C'est bien aussi de changer les questions.
C'est effectivement exactement. Non, c'est par rapport au Visa Tech, où en fait, nous, on a plus de 20 nationalités dans l'équipe, à Paris, juste à Paris. Hein. Je parle pas des gens qu'on a ailleurs, à Londres, aux États-Unis ou en Asie. Et c'est extrêmement important qu'on puisse continuer à attirer des talents tech du monde entier. Ça, c'est un point qui est fondamental. On n'a pas dans le marché français suffisamment de ressources, et donc il faut qu'on aille les puiser ailleurs. Il y a une guerre des talents avec Londres, avec Berlin, avec Munich, avec Madrid aussi, avec Milan. Donc il faut qu'on soit vraiment en situation de pouvoir attirer cette matière grise. Là aujourd'hui, je suis en train d'envoyer des gens, par exemple des Européens, à Londres, et comme c'est une entité qui est réglementée, il va me falloir pour certains d'entre eux 18 mois avant de pouvoir avoir les visas nécessaires pour envoyer des gens au Royaume-Uni. Aujourd'hui, j'arrive à tirer des profils excellents et avoir un visa en une semaine, pour faire simple. Si on garde cet avantage compétitif, on est beaucoup plus fort que les États-Unis, beaucoup plus fort que l'Allemagne, beaucoup plus fort que le Royaume-Uni dans la guerre des talents. Et quand on parle de tech, on parle de guerre des talents.
Tu dis ça parce que certains candidats envisagent de supprimer ou laissent penser qu'ils pourraient le supprimer.
Il y en a plusieurs, effectivement, qui pensent qu'on s'en sortira juste avec nos bras. Et je pense que sur la tech, sur les data scientists, notamment pour des boîtes qui ont une visée mondiale, celles qui veulent être vraiment des leaders mondiaux, on ne veut pas tourner qu'avec des gens effectivement qui viennent de France.
J'avais idée qu'en matière de science, on était quand même relativement bon en France, mais peut-être que je me trompe. Donc est-ce qu'on n'est pas assez à poursuivre cette carrière, ou est-ce que finalement les Nobel dont on peut éventuellement parler, les médailles Fields, pardon, c'est l'arbre qui cache la forêt de rien.
Je pense que
ou trop peu.
Je pense qu'effectivement, on a toujours besoin de plus d'ingénieurs, plus d'actuaires dans notre univers. Je pense quand même que par rapport à certains pays d'Asie, il y a eu un décrochage. Là, par exemple, on a des gens du Vietnam dans l'équipe, où il y a une école des maths vietnamienne qui est extrêmement élitiste, extrêmement puissante, et on voit qu'ils ont un niveau en fait en mathématiques qui est supérieur à celui qu'on peut trouver en Europe et aux États-Unis, mais très largement. Donc,
pédagogie pour y aller.
Non, c'est vraiment sur le niveau de maths, notamment de leur élite, qui est bien supérieur à celui qu'on peut trouver en France. Il y a plus photo. Peut-être qu'il y a 10-15 ans, il y avait une...
Mais donc c'est pas une question de pédagogie, c'est que des petits...
C'est sans doute à la fois des programmes qui sont plus musclés, le fait que ça reste une filière d'excellence. En France, les mathématiques restent une filière d'excellence, mais voilà, je vais pas rentrer dans les débats avec les réformes qui ont été... mise en œuvre récemment, mais on voit bien qu'il y a eu un décrochage dans le nombre d'étudiants qui prennent les mathématiques au lycée. Et clairement, là-dessus, on ne doit pas oublier que si on veut des champions tech, il faut des ingénieurs, il faut des mathématiciens d'excellence. C'est le seul moyen d'y arriver.
On parle de mathématiciens, vous êtes trois cofondateurs. Tu me les as décrits comme c'est l'histoire d'un normalien, d'un polytechnicien et d'un autodidacte. En l'occurrence, toi, qui a quand même fait HEC.
Oui, après, c'est effectivement, j'ai toujours une culture scientifique, mais qui est évidemment beaucoup plus faible que celle de mes cofondateurs, qui ont une vision finalement beaucoup plus clairvoyante des phénomènes physiques. Je suis pas un physicien du tout dans ma façon de penser. J'ai été plutôt bercé à des cours d'histoire, des cours de philosophie et pas à cette vision-là du monde. Donc c'est très complémentaire dans la façon de voir le monde.
C'est important la complémentarité.
C'est extrêmement important la complémentarité, et puis le fait de pouvoir se supporter aussi jour et nuit pendant une période de temps extrêmement longue. On peut pas créer une grosse boîte en quelques jours.
On parlait là il y a quelques instants de la levée de fonds. Alors c'est allé très vite en 3 ans, donc je me demande si la question est pertinente, mais il y a eu des moments de doute quand même.
La Covid-19, quand tout le monde était en télétravail, a été un moment de doute, parce qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un ADN d'assureur, donc on sait que c'est des événements qui se sont produits dans le passé, et donc on a réfléchi, par exemple, à ce qui s'est passé en 69 en France, en 1969. Donc il y a eu beaucoup moins de morts, mais il y a quand même eu beaucoup de morts quand même à cette époque-là, mal enregistrées. Donc on avait une perspective historique qui laissait penser qu'on arriverait à en sortir assez rapidement quand même. Mais il y a eu un moment de doute, effectivement, comme coup de start-up, on s'est dit « qu'est-ce qui va se passer ?» Après, encore une fois, on est sur un secteur où les clients sont maltraités. Donc à partir du moment où on apporte des solutions innovantes, les fondamentaux sont solides.
Je pense à ça, une question que je t'ai pas posée, mais la question des fonds, parce que vous assurez quand même des grandes entreprises et des gouvernements. Sur des volumes parfois de plusieurs millions d'hectares. Donc, on imagine en plus les volumes des sinistres en jeu. Il faut avoir l'air insolite. Comment au départ, on garantit, même pour ses premiers clients, qu'on aura l'air insolite et qu'on sera là?
Alors ça aussi, c'est un sujet qui va bloquer beaucoup de startups. C'est qu'on avait des contacts dans le monde de la science et de la réassurance qui faisaient que les gens avaient confiance.
La réassurance, c'est ceux qui assurent les assureurs.
Exactement,
je précise.
Les réassureurs, c'est les assureurs des assureurs. Qui clairement nous connaissaient, avaient confiance en notre capacité à gérer une entreprise correctement et qui nous ont fait confiance en nous prêtant leur bilan, entre guillemets. Donc on pouvait souscrire en leur nom. Et donc c'est vrai qu'on peut avoir aujourd'hui...
Donc c'est tes premiers clients, t'es pas allé leur dire vous signez chez Descartes Underwriting.
Exactement, enfin c'est qu'on vous signe effectivement par notre intermédiaire chez un autre acteur. Mais c'est nous qui allons effectivement rédiger la police avec ce qu'on appelle des délégations d'autorité dans le monde de l'assurance. Mais c'est pas sur le bilan Descartes, on aurait été évidemment ridicule en termes de bilan pour pouvoir le faire.
Et un jour, tu penses que vous serez plus obligé de le faire au nom d'eux? C'est l'ambition ou finalement, peu importe?
En fait, ce qui compte, c'est que les clients soient contents, que nos partenaires, notamment distributeurs courtiers, soient contents. Clairement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la tech injectée à beaucoup de niveaux dans l'assurance. L'émission de police, évidemment, tout ce qui est réassurance, la gestion de sinistre. Donc, on va aller plus loin dans la façon dont on gère la chaîne de valeur. Et clairement, oui, c'est quelque chose qu'on a en tête. Encore une fois, on prendra le temps nécessaire et puis on aura le modèle qui va bien. Mais il y a une attente pour qu'on soit plus tech partout.
Il y avait d'autres modèles possibles de développement en tête.
Alors,
parce que typiquement, vous auriez pu décider que votre solution, vous la mettiez à disposition des assureurs et réassureurs.
Tout à fait, il y a beaucoup de modèles qui peuvent coexister. À partir du moment où il y a des modèles, des algorithmes, des données, ça peut être des plateformes qui sont utilisées par d'autres partenaires pour souscrire. On a pris le choix d'être indépendant dans la façon d'opérer pour pas avoir à attendre les décisions des grands groupes. C'est assez important quand
de
on
quel lance. Ordre
souvent, si on doit dépendre d'un partenaire qui fait 100 milliards de chiffre d'affaires, on sait que c'est des entreprises qui sont lentes, pas parce qu'il y a une malveillance, mais parce que il y a beaucoup de processus de décision, des process assez complexes, et il faut aller vite. Un des avantages d'une startup, c'est aller vite. Donc en fait, être indépendant dans la façon d'opérer, c'était un choix qui était assumé pour bénéficier évidemment de l'aspect startup.
Si ça te va, alors là on était au présidentiel, mais on va aller encore un peu plus loin. I have a dream. Projette, j'ai un rêve pour le monde d'après, celui dont on a tant parlé. Comment tu projettes le monde dans lequel on va évoluer dans les 10-15 ans?
Alors, évidemment, j'ai une vision d'assureur qui pense toujours au pire. Donc, je vais essayer de ne pas tomber dans le défaitisme et dans la sinistrose. Je pense qu'on est quand même à un tournant au niveau des émissions de CO2 où on voit qu'on a à la fois à faire transitionner l'économie extrêmement rapidement et en plus à changer nos habitudes alimentaires. Moi le premier, quand j'étais enfant, on mangeait de la viande midi et soir, et puis c'était quelque chose qui était important, et voilà, c'était steak frites. Bon, clairement, quand on regarde les émissions en fait qui sont liées à la viande, c'est un vrai sujet, donc il faut je dis pas qu'il faut pas en manger évidemment, mais en revanche il faut faire attention à notre empreinte carbone aussi bien dans nos déplacements que nos habitudes alimentaires que tout le reste.
Vestimentaire.
Donc il y a malheureusement, je sais que c'est un débat qui est compliqué parce que c'est aussi notre culture. Hein. Moi encore une fois j'ai une culture où on mangeait de la viande tout le temps quasiment, c'était viril. À une culture, il va falloir remettre ça en question, en disant que c'est pas la bonne approche si on veut que nos enfants puissent évoluer dans un climat qui est plus serein. Pareil sur les déplacements, où on va compter évidemment sur des déplacements avec des avions qui seront beaucoup moins consommateurs en carburant, voire carrément électriques, mais on est encore très loin d'avoir craqué le sujet. Donc, il faut évidemment qu'on trouve un moyen d'innover de manière fondamentale dans les années qui viennent, mais aussi qu'on accepte de se faire mal.
Quand tu dis tout ça, c'est bien que tu fais le lien entre notre impact en tant qu'homme, en tant qu'industriel, entrepreneur aussi, mais même simplement d'un point de vue consommateur, et tout ce dérèglement climatique que tu observes au quotidien. Face à ça, il y a des discours alternatifs de, comment on dit, post-vérité, nouvelle vérité, j'en sais rien. Toi qui as l'air d'être un homme de science, sinon tu n'aurais pas choisi Descartes comme tête d'affiche de l'entreprise, comment tu le perçois aussi ?
En fait, le climato-sceptisme a quasiment disparu. Il y a 7-8 ans, quand j'allais à des conférences, j'avais droit à des critiques extrêmement dures à la fin des conférences, avec des gens qui ne voulaient pas revenir aux mains, mais qui clairement étaient très sceptiques par rapport à la façon dont on pouvait comprendre l'évolution du climat.
Il y en a moins ?
Il y en a beaucoup moins.
Ou du coup, tu es aussi dans ta bulle cognitive où finalement...
Non, il y en a beaucoup
ouais,
moins.
Vraiment.
Il y en a beaucoup moins. Il y a encore des débats, certains vont attaquer en disant « Oui, mais potentiellement, est-ce que c'est vraiment lié à l'homme ou pas ?» Mais quand on regarde sur 50 ans, un siècle, un millénaire, on a quand même beaucoup de données. C'est vraiment factuel. Il y a plus de débat. Encore une fois, si on regarde notre sujet inondation, feux de forêt ou vagues de chaleur ou sécheresse, on est quand même sur un facteur de 1 à 4 à 1 à 5 sur 50, 70
d'accélération,
ans. D'accélération,
tu
parles. D'accélération,
ouais.
Donc on a 4 fois plus, 5 fois de plus en 50 ans, 70 ans dans le monde. Bon, c'est pas...
Et de façon exponentielle sur les 50 ans après.
Alors, c'est toujours compliqué.
Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que le GIEC avait des scénarios qui étaient pessimistes, qui sont devenus les scénarios de base. Donc en fait, le GIEC, avec des scientifiques, on va dire, parmi les meilleurs du monde, en France, on a Hervé Le Trou notamment, qui est une des stars, on va dire, du sujet climatique, clairement ont été finalement trop optimistes. Ils étaient aussi dans une logique défensive où il y a beaucoup de gens qui à l'époque disaient voilà, vous êtes catastrophistes.
Il fallait pas faire peur.
Et les fameux en anglais on dirait doomsayers. Non, clairement en fait ils avaient loin d'avoir tort et clairement leur scénario pessimiste est devenu le scénario de base aujourd'hui. Donc voilà, c'est un point important.
Bon, j'imagine que tu as aussi vu Don't Look Up.
Alors je l'ai pas encore vu. Je sais que je dois le voir, donc c'est clairement dans les choses que je vois.
Dans la to-do, mais en même temps, pendant ce temps-là, tu levais des fonds, tu développais la boîte.
On travaille beaucoup,
c'est
donc
compliqué.
On regarde pas tellement la télé.
On va quand même parler dans la partie qui te sera plus dédiée pour comprendre d'où tu viens, comment tu t'inspires de tous ces sujets-là. Mais donc, bref, dans Look Up, t'as quand même dû avoir le pitch. On a eu là récemment la guerre en Ukraine avec certains, spécialistes qui disaient « Mais ça fait 20 ans que certains disent que c'est prévu, il suffisait de lire Poutine. » Et du coup, ma question, c'est on a beau dire, on a beau entendre, comment on se transforme ? Et du coup, typiquement, et là, je vais peut-être pas parler aux citoyens ou aux consommateurs que t'es, mais d'un point de vue entrepreneurial, comment on participe à l'effort et au changement de manière peut-être plus...
C'est une question extrêmement difficile là, que tu me poses. Je pense qu'on a une responsabilité, en fait, en tant qu'entrepreneur, dans la façon dont on va, positionner l'entreprise dans le monde moderne. Donc, il y a une attente aussi de beaucoup de salariés. On a, encore une fois, 20 nationalités, donc il y a des attentes très différentes, mais notamment sur...
Tu sens que les attentes sont différentes en...
Les attentes sont différentes, évidemment, entre on a des Chinois, des Indiens, des Vietnamiens, des Mexicains, des Américains. Évidemment, la vision du monde est différente. Il y a des parcours scolaires qui sont différents. Après, c'est tous des scientifiques dans leur façon de penser, donc il y a quand même des bases communes, mais ils ont été dans des environnements qui étaient vraiment très, très différents. Mais une responsabilité forte, effectivement, pour montrer qu'on essaie de faire quelque chose. L'action est un moyen de lutter contre l'anxiété. On voit bien que, enfin, nous, on a les mains dans le cambouis climatique tous les jours, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est vraiment horrible. Et donc, il faut réussir à passer de cette anxiété en disant « ça va mal » à « comment on fait pour que ça aille mieux ?» Et quand on passe dans l'action, finalement, ben, on dort mieux. Je dis pas qu'on règle le problème, mais en tout cas, on se met dans une logique voilà, où on va améliorer les choses.
Et alors, forcément, vous couvrez le risque, mais il y a possibilité, tu penses, à partir des data que vous obtenez, que vous collectez au quotidien, d'arriver peut-être à limiter ou en tout cas à éclairer mieux des décideurs, des gouvernements pour que des choses changent. Alors, parce que c'est une chose d'observer, de partager, oui, et finalement d'avoir une solution.
Je pense que sur, évidemment, la connaissance des risques climatiques, les assureurs jouent un rôle important et on doit jouer un rôle qui est plus important aussi nous. On est encore petit dans l'écosystème assurantiel, mais on veut être plus visible et évidemment faire bénéficier aussi de notre compréhension de ce qui est en train de se passer. Après, il y a un sujet de prévention qui est fondamental, qui est très complexe. Par exemple, on assure beaucoup de panneaux photovoltaïques, que ce soit en France ou aux États-Unis, et par exemple sur des orages de grêle. Parce qu'en fait, s'il y a un bel orage de grêle, les panneaux, en 15 minutes, c'est du verre brisé. Et donc en fait, si on arrive à relier nos capteurs avec les installations, on peut les faire
pivoter pas qu'ils prennent.
Alors, aujourd'hui, malheureusement, il y a encore certaines technologies où ça prend 30 minutes à pivoter. Donc c'est malheureusement pas fonctionnel.
Tard,
mais
ouais,
le jour, par exemple, on arrivera à faire cette rotation en quelques secondes ou quelques minutes, on pourra réduire en fait la sinistralité sur notamment énergie renouvelable qui est fondamentale.
Ouais. Super intéressant. J'ai une question. En fait, j'ai une question déjà de notre amie Maya, qui est la directrice de France Digital, sur globalement tous ces sujets-là. On l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour Tanguy. Le principal enjeu de l'humanité aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles qui en découlent. Ça tombe bien, c'est là que se situe votre marché. Ce qu'on observe aussi dans l'écosystème de start-up, c'est qu'elles sont de plus en plus nombreuses à faire de grands efforts pour avoir un impact environnemental positif. Chez France Digital, on a d'ailleurs créé un cercle de responsables RSE et Chief Impact Officer. Et on voit que de plus en plus de personnes rejoignent cette fonction. Mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites chez Descartes ?
C'est une bonne question. La réponse difficile est qu'on n'en fait sans doute pas assez. Et on est clairement dans une logique où là, on a un directeur des ressources humaines qui nous rejoint et qui va tant travailler sur le sujet pour qu'on soit meilleur dans notre approche. Bon, et clairement, si on regarde les gros postes d'émissions de CO2, bon, il y a les transports que tout le monde a en tête. Donc, on n'a pas une politique voiture. On est clairement sur transport en commun. On va être, et donc les avions, c'est vraiment que quand on n'a pas le choix pour des questions vraiment stratégiques, importantes pour la boîte, où ça va être moi qui vais me rendre aux États-Unis pour voir vraiment des clients et on va pas s'amuser à prendre des vols constamment, sinon ça va être du train et c'est très bien. Après, il y a évidemment, encore une fois, l'empreinte alimentaire. Hein, donc quand on fait des pots, on va s'assurer que ce soit pas que de la barbac qui soit distribuée à foison en open bar. Donc il y a vraiment des gestes assez simples, mais il faut que ces gestes-là soient pas des gestes, enfin des gestes scientifiquement fondés. Donc clairement, on a des véganes dans l'entreprise qui clairement sont capables d'expliquer précisément quelle va être l'empreinte carbone des différents comportements. Et donc on a parfois des mauvaises intuitions. C'est pas quelque chose qui est simple. Notamment voilà, la viande rouge importée du Brésil. Bon ça c'est un truc qui est quand même super extrême en termes d'émissions de carbone.
Si on parle du jambon, du cochon, du mec du coin, c'est
ça
c'est
va
pas
déjà
pareil.
Mieux. Après, ouais. C'est sûr que si tu passes aux légumes, t'as un saut, qualitatif quoi. C'est ça change.
Sauf s'ils viennent de l'autre bout du monde, donc après.
S'ils viennent de l'autre bout du monde, ce sera potentiellement moins grave que la viande rouge. Enfin, c'est vrai que c'est pas intuitif en fait.
Ouais.
Donc vraiment, mettre les mains dans le cambouis pour sortir des informations qui sont correctes. C'est comme l'énergie renouvelable. On sait que parfois l'empreinte carbone des installations photovoltaïques est finalement négative. Ce qui est pas intuitif. On se dit c'est super, on va partir à fond sur l'énergie renouvelable. Et puis finalement, si c'est importé de Chine avec évidemment des coûts écologiques énormes, finalement c'est pas si simple que ça. Donc il faut malheureusement rentrer dans le détail. Je pense qu'on est au début de notre réflexion là-dessus. On a fait les bons gestes évidents. Maintenant, je pense qu'il faut faire les gestes intelligents et ça, on les a pas encore mis en œuvre.
Je me rappelle d'un échange qu'on avait eu à ce micro-là avec le fondateur de Send in Blue, parce que typiquement sur l'impact carbone, CO2, on parle beaucoup aussi du tout le stockage, et notamment certains prônes à ce qu'on supprime l'ensemble des mails. Il disait que c'était pas le stockage des mails, mais que typiquement que supprimer tout, ça générait un volume de... Je saurais même pas bien l'expliquer, mais que finalement, pareil, c'était très contre-intuitif et qu'il valait presque mieux les laisser là où ils étaient.
Par exemple, sur la tech, c'est vrai que on sait que la blockchain aujourd'hui, avec les solutions actuelles, est pas la meilleure amie des émissions de CO2. C'est clair qu'on utilise beaucoup de données, donc on est aussi... un émetteur assez important comme toutes les boîtes tech. Donc là, pareil, il y a aussi des technologies à développer pour qu'on arrive à réduire la facture.
Après, toute activité a une empreinte, quelle qu'elle soit, on peut pas ne pas avoir d'empreinte.
Oui, mais malgré tout, il y a quand même, il faut falloir qu'on s'améliore parce que c'est plus possible. Et on voit même qu'avec la Covid-19, finalement, il y a eu effectivement, on est revenu en arrière de d'une grosse décennie, mais on n'est pas du tout là où on devrait être. Et là, on est reparti à fond les ballons en termes d'émissions. Donc, il va falloir qu'on se fasse mal. Une fois, c'est malheureusement pas que des bonnes nouvelles. Il va falloir qu'on accepte de se remettre en question fondamentalement.
Le premier sujet, c'est peut-être d'aller chercher les fameuses données pour pas partir sur des solutions contre-intuitives.
Exactement. Enfin, c'est un sujet qui est...
Enfin, des fausses bonnes idées, pardon.
Hautement complexe. Mais voilà, c'est on pourrait dire... Et puis après, il y a en plus des sujets de... écologique, des sujets de développement. Encore une fois, il y a parfois des arbitrages entre est-ce que l'estomac sera plein ou est-ce que les émissions de carbone sont élevées. Et clairement, la Chine a une première étape où c'était on remplit l'estomac et puis une fois qu'on a rempli l'estomac, on travaillera sur l'écologie. Donc c'est des questions qui sont extrêmement
qui
complexes.
Qui s'entendent, évidemment, évidemment. Mmh. Écoute, moi j'ai décidé que tu avais un investisseur préféré. En tout cas, j'ai appelé l'un d'entre eux et je lui ai demandé de te poser une question. On l'écoute, il s'agit de Stan Laurent.
Vous avez un message.
Bonjour Tanguy. Alors j'aimerais te demander quelle est l'invention qui, à ton avis, a fait le plus avancer l'humanité et quelle est celle qui la met la plus à risque. Voilà.
Vous avez 3 heures, mon cher Tanguy.
C'est une question intellectuelle qui est très exigeante. Faut que je réfléchisse. Le feu, je pense que ça a permis de changer l'équation, notamment le fait qu'entre le cru et le cuit, ça nous a permis évidemment de conserver la nourriture. Enfin, bon, je pense que le feu est peut-être celle qui a permis un tournant dans l'humanité.
J'adore, je pensais pas qu'on allait remonter si loin. J'adore.
Non, mais après, on peut penser à l'Odyssée de l'espace, de Kubrick aussi. C'est un tournant, et même pour la sociologie, on voit qu'il y a eu un tournant avec un tournant aussi physique qui a conduit à un développement de mâchoires différentes. Enfin, c'est du Darwin, donc c'est pas développement de mâchoires, mais il y a une sélection qui a été différente, on va dire, dans la façon
dont l'espèce a évolué.
Après, celle qui l'a plus.
Parce que le gros tournant, c'est la roue. Pardon, c'était pour le jeu de mots.
Exactement. Non, la plus dangereuse, je pense que on en invente régulièrement des très dangereuses. Je pense qu'il y a un vrai débat, par exemple, sur l'intelligence artificielle appliquée aux armes de guerre. C'est sûr que là, on va voir comment ça se passe aussi en Ukraine, malheureusement, mais l'actualité est sordide. Mais si l'homme est confronté à une intelligence artificielle supérieure, on peut très bien imaginer des scénarios où on disparaît. Donc c'est à la fois un bienfait incroyable, une étape dans le développement de l'humanité qui est fondamentale, et en même temps une prise de risque si finalement ça se retourne contre nous, qui est aussi potentiellement ça peut être à l'origine de la disparition de l'humanité. Donc je pense que c'est celle peut-être qu'il faut le plus regarder en ce moment, à la fois du côté bienfait, du côté méfait.
Comme toute grande innovation, c'est ce qu'on en fait qui comptera à la fin.
Je ne suis pas remonté effectivement à des âges primitifs.
Ouais.
Mais le nucléaire, on voit que c'est y a un grand débat. C'est plutôt, je pense que par rapport aux émissions de carbone, en tout cas, le nucléaire est un choix qui est inévitable.
Eh bien, je te propose ainsi qu'à tous nos auditeurs de passer à la partie 2 de ton épisode. On se retrouve dans quelques instants.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.